Théodore de Villeva, un miracle. Kate McGibbon était désespérée. C'était sa sœur Nelly que Mr. John Morris avait invitée à une promenade sur le lac. Et quand elle s'était offerte à les accompagner, il avait accepté d'un air si gêné qu'elle avait failli s'évanouir. Quelle folie aussi d'aller se forger des idées, parce que ce jeune homme avait semblé au déjeuner au lunch prendre plaisir à causer avec elle. Elle avait prétexté une lettre à écrire, les avait laissés partir seuls. Maintenant, elle les voyait par la haute haie vitrée du salon, occupés à démarrer le canot, tirant tous deux la corde qu'il attachait à son ancre, entremêlant leurs mains. Sa mère restait assise dans un fauteuil, tout à lire le journal d'Édimbourg. Kate eut un moment d'envie d'aller l'embrasser, de lui raconter son misérable rêve, sitôt détruit. Mais il lui parut que ce serait s'humilier et faire trouver ridicule en ce qui pourrait être triste mortellement. Et toujours elle s'en voulait de s'être imaginée de si sottes chimères. Elle était laide, elle le savait, tout le monde le savait. Elle était de celles que personne ne demande en mariage, qui mourront sans avoir été aimées. Elle voulut écrire la lettre dont elle avait parlé, et la lettre qu'elle écrivait tous les mardis à Jane Beckfield, son amie de pension. Elle s'assit devant le petit bureau, mit soyeusement la date sous l'adresse imprimée, Ocean Greg St. Philans, Porshire. Mais non, on n'était pas disposé, elle écrirait demain. Ce mal qu'elle savait connu de tous, cette fatale laideur dont l'idée l'avait empêchée depuis tant d'années de goûter pleinement un plaisir, jamais elle ne s'était résignée à l'avouer à personne. Elle sentait bien que chacun, en la voyant, y pensait comme elle, et dans le ton des paroles qu'on lui adressait, elle s'ingéniait à découvrir un reflet de cette pensée maudite. Il lui semblait même parfois qu'elle aurait un soulagement à trouver une confidente. C'était Jane Barkhead, par exemple, sa compagne d'autrefois. Peut-être celle-là, qui elle non plus, faute d'argent, ne se marierait jamais. Peut-être trouverait-elle une consolation qui serait la calmer, ou bien même un mystérieux moyen de la guérir de sa laideur, ce moyen qu'elle s'acharnait à vaguement attendre. Pourtant, elle ne pouvait se forcer à dire ce qui la torturait. Elle avait écrit « My dearest Jane » et elle restait là, les mains immobiles, suivant des yeux par la fenêtre les mouvements des deux rameurs, ou considérant avec une attention sans pensée le sauvage rocher d'un bleu sombre qui fermait l'horizon derrière le lac désolé. Elle s'approcha du piano, chercha sur une chaise voisine quelques morceaux faciles et qui pût la distraire. Mais elle sentit qu'elle n'aimait pas la musique. Elle le comprenait à présent. Elle se rappela que John Morris, après le lunch, l'avait prié de chanter une ballade écossaise. On lui disait qu'elle chantait bien, et les compliments qu'on lui en faisait étaient pour elle de cruelles injures. C'était en pensant à son manque de grâce et de beauté, c'était pour la consoler d'un malheur trop manifeste, qu'on lui accordait ces indulgentes flatteries. Mais sa voix aussi devait être laide. Et puis la musique ne lui donnait pas, comme à d'autres, des jouissances très profondes. Était-ce seulement vrai, ce que lui avaient dit les jeunes filles, qu'une mélodie suffisait à leur faire oublier tous les chagrins inondant leur cœur et leur chair de chaudes sensations? Elle essaya de jouer une valse qu'elle savait par cœur. Elle se contraignit à jouer avec une rapidité folle. Malgré tout, elle s'ennuyait et elle ferma le piano. Sa mère venait de découvrir dans le Scotsman un article nécrologique sur un avocat, ami de M. McGibbon. « Écoutez, Kate !» Et elle dit écouter et par instant répondre. « Oui, ou faire quelques gestes d'attention, lorsque sa mère lui signalait une phrase ingénieuse. Elle éprouvait maintenant une envie de courir à la fenêtre, de voir si sa sœur et le jeune homme étaient loin. Elle se demandait s'ils allaient bientôt débarquer à Lochhead, où ils devaient s'arrêter pour prendre visite aux trois vieilles Miss Lachlan. Mais que lui dit-elle pendant qu'ils rament, assis en face l'un de l'autre, les yeux dans les yeux? Un moment, elle s'imagina que c'était pour parler d'elle que le jeune homme avait voulu être seul avec Nelly, pour la consoler sur ce qu'elle avait pu entrevoir de ses sentiments. Elle rougit de honte. Elle se rappela un bal à Édimbourg où elle était allée le printemps passé, et comme ses rares danseurs avaient eu une mine embarrassée dans sa compagnie. Et elle avait eu la faiblesse d'aller à ce bal. Elle l'aurait encore. Ne perdrait-elle donc jamais cet espoir insensé qui ne lui apportait que douleur? Ainsi, sa souffrance se précisait, compliquée de remords et de folles épouvantes. Vainement, elle avait cru d'abord la calmer ou la distraire, mais elle la sentait si vive qu'elle dut s'enfuir du parloir, sitôt la lecture finie. Dans sa chambre, Kate courut tout de suite à la glace qui surmontait la petite table de toilette. Pourquoi avait-elle pris cette habitude de ne pouvoir passer devant un miroir sans s'y regarder, sûre qu'elle était de voir y retrouver le souvenir de son tourment? Il lui semblait toujours que le miracle espéré était peut-être survenu et qu'elle allait se voir guérie. Longtemps, elle se mira avec des pauses, des essais de sourire. Hélas, elle s'était déjà vue dans toutes ses attitudes et le miracle décidément ne surviendrait jamais. Et pourtant, elle continuait à ne pas comprendre pourquoi elle était laide. Rien ne lui déplaisait, rien ne la choquait dans cette pâle figure aux cheveux rouges. Il y avait bien, oui, ses sourcils épais, presque blancs, cette bouche trop large sous le petit nez enfoncé. Mais pour être singulière, sa figure n'était pas laide. Elle se révoltait contre l'aveuglement universel. Davantage encore, pourtant, contre l'injustice de la destinée, car malgré tout, elle le savait trop bien qu'elle était laide, qu'elle le serait toujours. La vie qu'elle menait depuis tant d'années lui parut tout à coup impossible. Elle résolut de se réfugier à Norwich chez sa grand-mère. Mais, ici ou là, quoi bon vivre avec tant d'infortunes? Elle s'était détournée de la glace. Et lorsqu'elle s'y regarda de nouveau, il lui parut que ses deux yeux un peu fermés, comme voilés de larmes contenues, lui donnaient quelque chose d'une gracieuse mélancolie qui ne pouvait manquer d'être compris un jour. Elle arrangea une boucle de ses cheveux qui s'était trop avancée sur le front. Sa toilette avait toujours beaucoup occupé, par un goût naturel qu'elle s'était refusée à quitter, comme si elle avait voulu être prête et d'avance ornée lorsque viendrait le miracle. Aussi bien, il était impossible qu'elle restât toute sa vie dans cette horrible misère. Elle sentait que c'était une épreuve. Elle avait 22 ans, elle avait droit à une jeunesse. Pour la première fois depuis le départ des promeneurs, elle songea nettement à sa sœur aînée Nelly, qui, elle non plus, n'était pas belle avec son grand cou et ses mains trop larges. Mais comment se faisait-il que celle-là était sûre de la vie, que les jeunes gens lui causaient avec plaisir, qu'elle-même l'aimait, éprouvait auprès d'elle un charme inévitable? Elle l'aimait, et l'idée de la voir mariée lui était si familière qu'elle n'en ressentait pas la moindre jalousie. Pourtant, elle se complut dans une comparaison où tous les avantages étaient de son côté. À tout instant, elle oubliait la réalité, se perdant à de fiévreuses rêveries pleines d'images de bonheur. Et c'était d'effrayants retours qui faisaient sauter son cœur dans sa poitrine lorsqu'elle revoyait John Morris se levant d'à côté du piano pour inviter sa sœur à cette excursion. Elle s'était assise sur l'unique chaise de la petite chambre auprès de la fenêtre. Elle regardait le jardin du cottage avec l'escarpolette doucement remuée par le vent et la ligne grise des collines là-bas derrière la haie. Ou bien elle promenait distraitement ses yeux sur les images dont elle avait décoré sa chambre en juillet, lorsque ses parents avaient quitté leur maison d'Édimbourg pour venir passer l'été à Saint-Fillans. Des photographies jadis rapportées de Florence, la fête du printemps de Botticelli, le Ginevra Benci de Ghirlandajo et la Vierge du Grand-Duc. Quel heureux voyage maintenant qu'elle le revoyait à distance en comparaison avec sa vie présente. Elle eut l'idée que si elle retournait en Italie, elle ne songerait plus à son mal. Mais non, c'était là qu'elle avait le plus souffert. Comment pouvait-elle l'oublier? Elle n'avait pas cessé de désirer la compagnie d'un homme tout à l'aimer dans cette Florence d'un si charmante distinction. Et chacune des admirations qu'elle y avait éprouvées avait fait en elle un vide douloureux, lui apparaissant aussitôt mesquine et sans importance, puisqu'il n'y aurait jamais personne pour s'y intéresser. Souvent, lorsque sa douleur était trop vive, elle essayait d'écrire avec un sentiment confus de gloire et de supériorité littéraire. Elle avait fait des vers, commencé un roman. Désormais, elle projeta de s'occuper uniquement d'une œuvre de pensée, entrevoyant déjà un compte-rendu élogieux de son livre dans les journaux. Elle saurait bien y mettre dans ses romans le trésor de passion et de mélancolie qui était en elle. Est-ce qu'il n'y aurait pas de délicats jeunes hommes tout prêts à s'enthousiasmer devant un livre de génie et à aimer une femme pour la hautaine pureté de son intelligence? Elle s'ingénia à trouver les sujets, mais elle n'en pouvait concevoir qu'un seul, sa lamentable histoire. Par instants, elle apercevait une héroïne touchante et séduisante dans sa laideur. Mais pourquoi donc elle-même n'était-elle pas ainsi? Elle avait beau chercher à s'oublier, toujours c'était son malheur qui lui hantait l'esprit, la fatale injustice de sa destinée. Combien pourtant elle aurait offert de bonheur à celui qui aurait consenti à la prendre? Car enfin elle était une jeune fille, elle se sentait pleine de vie et de santé, elle savait rire, être gaie et tendre. Elle devinait des choses par où elle aurait conquis à jamais le cœur qu'il aurait choisi. Elle s'approcha de la petite étagère où elle avait mis ses livres. Elle n'avait apporté que des Christmas books, des histoires d'enfants, la seule littérature qu'elle aimait. Elle se reprocha ce goût ridicule, sentant qu'il lui venait d'un temps où la vie lui était encore si sottement souriante. Comme elle aurait été une bonne mère et quels beaux enfants elle aurait eu. Elle ouvrit un livre, un autre, les referma. Elle se demandait ce que pouvait faire à présent sa sœur avec John Morris. Sans doute ils étaient à prendre le thé chez les vieilles demoiselles. Il écoutait Nelly bavarder et la comparait à sa sœur cadette, qui était décidément trop laide. Et puis pourquoi, dans tous ces romans de Mrs. Mosworth, les jeunes étaient-elles jolies? De celle-là, elle était jalouse. Elle aussi aurait su se gagner l'amour d'un jeune seigneur si elle avait eu des cheveux d'un blond plus tendre et une taille plus fine. Oui, elle trouverait du génie pour raconter au monde le roman de sa vie. Avec quelle netteté, d'ailleurs, elle la revoyait tout entière, depuis le jour où on l'avait mise en pension à Stirling en compagnie de sa sœur. Comme tout alors était plein de bonté, de complaisance pour elle. Elle avait une petite robe noire et un chapeau de paille noire, et elle aimait tant à se regarder dans la glace, sa petite figure maligne sortant gentiment de sa collerette de dentelle. Dans la promenade quotidienne aux ruines du vieux château, elle causait avec Jane Barkhead de leur avenir à toutes deux, des beaux mariages qui les attendaient, de leurs enfants, qu'elle serait habillée avec un goût si fin. Elle étudiait de son mieux. Ses maîtresses l'aimaient, et c'était elle que ses parents préféraient aux jours de vacances. Elle était revenue à Édimbourg, gaie, insouciante, la tête remplie de beaux projets de plaisir. Elle se parait avec mille attentions, se trouvant charmante, sûre d'être aimée au premier bal où on lui permettrait d'aller. De temps à autre, et quand elle s'obstinait trop à demander si ceci ou cela lui arriverait une fois mariée, elle surprenait bien, dans les réponses de sa mère, des accents ou des gestes embarrassés. Mais elle ne s'en étonnait sans chercher à comprendre. Un jour, ce fut sa sœur qui lui fit entrevoir un peu de la triste vérité. Kate ne s'était-elle pas avisée de plaisanter Nelly sur une robe lui disant qu'elle ne savait pas faire passer les défauts de sa figure? Oh, comme elle se fâcha et s'indigna lorsque l'aînée lui répondit qu'elle n'avait pas le droit d'être si sévère avec la figure qu'elle avait. En somme, elle reprenait vite toute sa tranquillité, incapable de comprendre elle-même une situation dont ses parents espéraient follement la tenir toujours ignorante. C'est ce premier bal tant attendu qui, s'ajoutant à une foule de petits faits antérieurs, acheva de lui révéler son infortune. Sa toilette de soirée tout de suite lui parut l'enlaidir, mais elle sut entrer fière et la tête haute et souriante. Hélas, elle n'oublierait pas cette soirée mortelle où elle s'était vue délaissée dans un coin, ni le second bal, ni ce troisième où elle avait surpris des sourires très clairs. Pourtant, elle s'était costumée avec un art infini, et maintenant c'était surtout ce souvenir qui l'accablait, l'impression d'un ridicule dont tous autour d'elle devaient s'être moqués. Depuis lors, son existence avait été un martyre de tous les jours. Elle était précipitée dans un abîme de malheur, et toujours elle tombait, s'accrochant parfois à un souvenir ou à un espoir, bientôt forcée de descendre encore. Elle avait dû ne rien montrer de ses sentiments. Elle se demandait avec stupeur comment elle avait eu le courage. Il avait fallu continuer à jouer le rôle de jeune fille, tout en sachant, en voyant écrit dans tous les yeux, qu'elle n'était pas une jeune fille, mais un être désormais sans âge et sans sexe. Un jour, elle avait appris que les cheveux rouges revenaient à la mode. Et son âme, toujours prête à se faire illusion, était repartie vers de nouveaux espoirs. Elle avait imaginé une coiffure singulière, mais fort bien calculée à la mettre en valeur. Une coiffure d'un savant désordre, avec les cheveux très hauts sur le front et une natte dans le dos. Elle était descendue, ainsi coiffée, pour le dîner. On avait ri dès qu'elle était entrée. Elle avait dû aller s'asseoir d'un air tranquille, renfermant en elle ce nouveau supplice. L'été précédent, ses parents l'avaient conduite dans une petite ville d'eau badoise, à Badenweiler, et c'est là que le bonheur lui était réapparu après tant d'années. Elle avait rencontré à la table d'hôte du Römerbad, un jeune médecin de Munich qui lui avait plu et qui tout de suite avait cherché à se lier avec elle. Ils avaient parlé de Florence, de Haydn, de la musique de Mozart. Tous les jours, ils s'étaient vus à table. Souvent, ils avaient fait ensemble des excursions dans les montagnes de la Forêt Noire. Une fois, dans un voyage au Rhin, elle s'était trouvée seule avec lui, en avant de ses parents. Et comme elle était fatiguée, le jeune homme lui avait offert son bras. Jamais il n'avait parlé d'autre chose que d'art ou de nature. Kate savait même que plusieurs opinions de son ami étaient d'un pédantisme bien peu distingué. Pourtant, elle avait été sûre qu'il l'aimait. Et sans cesse, elle désirait, elle attendait des discours plus tendres, attribuant à toutes sortes de scrupules délicats la réserve du jeune médecin. Mais celui-ci, un soir, lui avait dit adieu dans la cour de l'hôtel, rappelé à Munich par un télégramme. Il lui avait serré la main cordialement, l'avait remercié de son obligeance pour lui, puis il était parti. Jamais elle n'avait eu de ses nouvelles. Et parfois, elle s'enfiévrait à ce souvenir. Certaine d'avoir été aimée, il lui suffisait pour désespérer de se rappeler combien il y avait d'indifférence ingénue dans la dernière poignée de main du jeune homme. L'angoisse, depuis lors, n'avait pas cessé. La pensée fatale s'était répandue dans son âme comme une tache d'huile, s'emparant l'une après l'autre de toutes les sources de plaisir. Elle ne pouvait plus voir personne, ni s'occuper de rien, sans s'apercevoir aussitôt combien tout cela était vain, puisqu'il y avait un bonheur qu'elle méritait et qu'elle n'avait pas. Tout ce qu'elle entendait, lisait, imaginait, tout la forçait à ce désastreux retour sur elle-même. Combien de distractions n'avait-elle pas cherchées? Le dessin et la musique, les travaux du ménage, jusqu'à une existence à demi hallucinée où elle voulait se figurer qu'elle avait quelque part une timide amant épris de sa beauté. Rien n'y avait pu faire. Sur son esprit s'était fixé un couvercle d'un poids mortel. Elle sentait que tout l'intéresserait, qu'elle excellerait en toute chose, si seulement elle recouvrait l'unique avantage dont elle était privée. Et par instant, cette idée lui apparaissait avec une netteté si étrange qu'elle l'offrait à Dieu comme une prière ou un appel. Il s'agissait d'une si petite chose. Elle en avait tant d'autres toutes prêtes pour le moment du miracle. Avant les vacances, en mai, elle avait rencontré chez une tante John Morris, un jeune avocat, qui avait été autrefois l'assistant et le protégé de son père. Il était laid, en somme, lui aussi, assez. Il avait un nez large et gros, et de petits yeux à fleur de tête, pas riche non plus, et chargé d'une vieille tante à soutenir. Même, il lui avait spécialement déplu pour quelque chose de sec et de trop simple dans ses façons. Et pourquoi donc s'était-elle imaginé que c'était pour elle qu'il était revenu le surlendemain faire visite à ses parents, et pourquoi avait eu comme un éblouissement de joie lorsque le jeune homme avait été s'asseoir près d'elle dans le coin du salon où, toute tremblante, elle s'était réfugiée? Il était revenu les voir à Saint-Félens la première dimanche qu'il s'était installé. Il était revenu 15 jours après, et c'était à présent sa 5e visite. Il arrivait exprès d'Édimbourg, affrontant l'ennuyeux voyage, et parfois elle s'en étonnait, le voyant si froid, si réservé, tout entier aux discussions juridiques avec son père, tandis qu'il lui semblait d'autres fois surprendre dans ses coups d'œil, dans certaines intonations adoucies, un reflet de tendresse patiente et craintive. Mais il suffisait que le jeune homme repartît 2 jours après pour que ses imaginations ambitieuses en même temps s'évanouissent, la laissant plus abattue et plus découragée encore. Ce matin-là, pourtant, elle avait senti renaître, plus forte que jamais, ses espérances d'être aimée. Il lui avait bien semblé que c'était l'amour qui donnait aux petits yeux du jeune homme cet éclat voilé. Lorsqu'il s'était assis auprès d'elle pour tourner les pages de sa balade écossaise, elle avait vu sa main trembler. Ah, folle, folle et misérable qu'elle était! Dieu sait cependant que ce n'était pas d'amour qu'elle demandait, mais que seulement il l'a pris pour femme avec la petite dot que ses parents lui donneraient, qu'il consentit à comprendre sa nature passionnée, la reconnaissance immortelle qu'elle trouverait dans son cœur. Il lui parut que John Morris ne pourrait jamais se marier s'il la dédaignait. Elle eut un remords affreux à n'avoir répondu à ses avances que par de froides paroles. Si par hasard il avait été sur le point de l'aimer, et qu'elle l'en eût empêché, et la voilà replongée dans son rêve du matin. Elle se voyait mariée avec lui, ornant sa petite maison, témoignant mille attentions à sa vieille tante, réglant avec la bonne les comptes du ménage. Puis elle songea que toutes ces choses, c'était sa sœur Nelly qui les ferait, sa méchante sœur, qui aurait bien dû s'apercevoir de ses angoisses et s'effacer devant elle. Décidément, Nelly l'avait toujours rendue malheureuse. Elle était seule, seule au monde, et tous la haïssaient. Elle pleurait, la tête appuyée sur son lit. Jamais elle n'avait tant souffert. Elle voulut se coucher, dormir jusqu'au lendemain. Mais non, elle irait au bord du lac. Elle marcherait des heures, attendant de cette course et du triste paysage, ne savait quelle poésie qui exciterait sa douleur. Elle sortit en courant de sa chambre, s'arrêta à peine au bas de l'escalier pour saisir un chapeau, et elle erra le long du lac sans autre pensée précise que ce désir de souffrir. Elle rencontra trois petits-enfants d'une maison voisine qui la saluèrent gaiement et s'offrirent à lui tenir compagnie. Tous les jours, elle les recevait dans le salon du cottage, leur apprenait à lire. Ce soir-là, elle ne répondit pas à leur bonjour. Elle s'enfuit, sautant sur les galets, tantôt mouillant ses pieds à trop s'approcher du bord, tantôt grimpant sur des pierres si hautes qu'elle se voyait forcée de retourner en arrière pour ne pas tomber. Elle songeait au triste destin de ses enfants, dont le père s'était noyé un jour qu'il avait trop bu, et dont la mère à son tour, matin et soir, s'enivrait le whisky. Il n'y avait pas un seul habitant qui ne fût ivrogne. Les hommes et les femmes et les jeunes filles, tout dans ce petit village de pêcheurs. Ces gens-là, qui toujours l'avaient indignée, ben, ils étaient plus heureux qu'elle. Ce qu'ils demandaient à la vie, ils l'avaient. Est-ce qu'elle ne pourrait pas trouver le bonheur à des sources pareilles, sans quelque passion plus distinguée mais aussi absorbante? Puis l'idée lui vint qu'à cette heure, Nelly et John Morris devaient être rentrés. Elle décida de ne point rentrer elle-même avant le lendemain. Il lui semblait que le soulagement espéré allait bientôt lui venir. La nuit tombait, le lac devenait plus sombre et le ciel plus bleu. Un vent très vif s'était levé qui la battait au visage. Quelle singulière sensation elle éprouvait, comme si de son corps se fût dégagé un pouvoir mystérieux. C'était, elle le sentait bien, l'amour qui l'appelait, et elle frémit en songeant aux indicibles jouissances qu'elle avait toutes prêtes pour qui voudrait l'aimer. Le vent était si violent qu'elle dut rebrousser chemin. Elle avait la fièvre, sa tête brûlait. Est-ce qu'elle n'allait pas tomber malade et mourir? Cette idée l'épouvanta. Revenue chez elle, elle s'enferma dans sa chambre. Elle y resta jusqu'au coup de gong du dîner, étendue sur son lit, s'efforçant de ne penser à rien. Le dîner, et sa toilette qui n'était pas commencée, et ce John Morris qu'il faisait revoir, qui lirait toute sa honte dans ses pauvres yeux. Elle appela la femme de chambre, lui dit qu'elle avait la migraine et ne descendrait pas à table. Mais quel regret elle en ressentit 5 minutes après. Il lui sembla qu'elle venait de se perdre. Si elle avait paru au dîner, sa souffrance aurait éclairé son visage de quelques lueurs surnaturelles et John n'aurait pu s'empêcher de l'aimer. Maintenant, il était trop tard. Il devait être occupé à causer avec Nelly. Il racontait à ses parents les détails de sa promenade et revoyait ainsi plus charmante toutes les gamineries de sa compagne. Elle résolut de descendre au salon pour attendre la fin du repas. Elle allait se mettre au piano, verser l'amertume de son cœur dans cette chanson des Highlands qu'elle chanterait de nouveau. Mais aurait-elle la force de les voir entrer, gais et indifférents à sa musique, de subir devant eux les questions de ses parents? Elle courut à la glace, s'assit, se regarda longtemps. Mais est-ce qu'elle allait toujours rester laide? Pourquoi alors continuait-elle à éprouver ce mystérieux frisson qui lui brûlait la chair et qui par instant montait à son cerveau avec d'étranges images, tandis que sa poitrine saoulée se heurtait aux baleines du corset? Elle entendit au-dessous d'elle le bruit du piano. On avait fini de dîner et c'était sa sœur qui jouait avec le jeune homme cette valse de Grieg qu'elle elle-même avait apprise pour la jouer avec lui. Elle s'obstinait à se mirer. Elle essayait de concentrer sa volonté dans ses yeux comme pour une opération de magie. Elle exigeait, il fallait que le miracle enfin s'accomplît. On frappa à la porte, Mistress McGibbon entra, parut surprise de la voir debout. Et Kate, pendant qu'elle se plaignait de sa migraine, se sentit prise de haine contre sa mère elle-même, qui aurait bien dû trouver un moyen de lui éviter son malheur. Elle se tenait le front, ses mains tremblaient. Oh oui, elle allait tout avouer. Pourtant, elle sut rester calme et ne rien laisser voir de l'émotion inouïe qui faisait battre son cœur, lorsque sa mère lui dit que Mrs. Morris avait eu un entretien avec son père. Au retour de la promenade, elle avait demandé en mariage. Elle écouta sans rien dire, sans faire un mouvement de stupeur ou de joie. Cette invraisemblable nouvelle. Elle apprit que le jeune homme avait voulu d'abord causer de son projet avec Nelly, que celle-ci n'avait su rien répondre et que M. McGibbon, lui non plus, n'avait rien répondu. Ce mariage, en somme, serait une heureuse affaire, car Kate n'avait pas à être très exigeante, étant plutôt pauvre. Malgré qu'il en coûtât à ses parents de l'avoir mariée, la première, avant sa sœur aînée. Voilà ce qu'elle apprit, ou plutôt fait semblant d'apprendre. En réalité, les paroles de sa mère lui arrivaient confuses et vides de sens. Mariée, elle serait mariée. Mr. Morris l'aimait. Elle n'était pas laide. Ne l'avait-elle pas toujours pensé qu'elle était belle et qu'on devrait l'aimer? Elle eut le sentiment toutefois qu'il avait fallu au jeune homme et au monde entier une bonté infinie pour prendre ainsi pitié d'elle. Elle se jeta en pleurant au cou de sa mère, mais elle ne put dire un seul mot. Sa fièvre maintenant lui enlevait toute force. Elle se dévêtit, se coucha dans son lit, à peine si elle put faire entendre qu'elle souffrait trop pour penser à autre chose. Le lendemain, elle serait mieux, elle donnerait sa réponse. Elle supplia sa mère de la laisser dormir. Belle aimée, ne rêvait-elle pas? Enfin, elle avait trouvé justice. Et comme les idées se pressaient sans ordre dans sa tête, comme elle éprouvait un besoin insensé de se lever, de descendre, de se jeter dans les bras de ses parents, dans les bras de John Morris, elle se contraignit à réunir toute sa pensée sur le bonheur qui l'attendait. Ainsi, avant 3 mois, elle serait mariée. Elle aurait une maison à elle, une délicieuse maison, comme Morningside, qu'elle aménagerait à son goût. Elle songea qu'il lui faudrait quitter ses parents, sa sœur Nelly, qui avait été si bonne pour elle et qu'elle avait été si odieusement accusée. De nouveau, elle voulut descendre pour dire à Nelly combien elle l'aimait. La pauvre fille. Elle n'était pas jolie avec ses mains trop grosses, son long cou et ses dents saillantes. Et si bonne, il la prendrait avec eux 6 mois de l'année. On finirait par lui découvrir un mari. Elle se vit installée chez elle en tête-à-tête avec John Morris. toujours, toujours ensemble. Mais pourquoi ne pouvait-elle s'imaginer avec plus de netteté ce contact incessant du jeune homme? C'était une figure vague qu'elle apercevait à sa place, un homme plus grand et d'allure moins chétive. Ne l'aimait-elle pas, cet ami si charitable qui avait su la comprendre? Elle s'accoutumerait à lui, elle était trop égoïste. Comme elle allait réussir à l'aimer! Le matin, elle se lèverait avant lui, ferait préparer son déjeuner, remonterait lui porter ses lettres. Les soirs d'été... Non, elle ne pouvait fixer sa pensée sur lui. Quand elle apercevait sa maigre figure pâle, c'était à distance, de l'autre côté d'une table. Elle ne parvenait pas à se l'imaginer s'approchant d'elle, la tenant par le bras. Elle était ingrate. Oserait-elle jamais lui avouer ce trouble monstrueux qu'elle éprouvait? Et c'était là ce qu'elle donnait en échange de tant d'amour. Elle se reprit à imaginer l'heureuse existence qui l'attendait auprès de cet homme, tout occupé d'elle, obéissant à ses moindres désirs. La fièvre qui l'avait secouée peu à peu s'éteignait, ralentissant le régulier battement de ses tempes. Elle s'en voulait de ne pas avoir autant de joie qu'il aurait fallu. Et ce fut pendant des heures une rêverie confuse, où des images de son passé alternaient avec des espoirs d'avenir, une rêverie coupée de regrets sans raison, de soudaines envies de rire ou de pleurer. Par degrés, dans son esprit à présent plus calme, une idée se dessina, toujours plus distincte, sans qu'elle y prît garde, jusqu'à ce qu'enfin elle l'aperçût devant elle toute formée, avec quelque chose de pressant qui appelait une réponse. Il lui sembla que John Morris ne l'aimait pas d'amour, que c'était impossible. N'aurait-elle pas demandé sa main que parce qu'il croyait ne pouvoir trouver mieux, ou bien à cause de sa petite dot, ou de la clientèle de son père? Mais alors pourquoi ne s'était-il pas adressé à sa sœur aînée? Non, c'était une idée folle. Et tout en se confirmant dans cette consolante certitude, Kate songeait que les prévenances de John, avec les intervalles de froideur qui les séparaient, peut-être elle aurait dû y voir des efforts du jeune homme pour vaincre une première répugnance, pour s'accoutumer à elle. Des détails qu'elle n'avait pas écoutés dans le discours de sa mère, mais qu'elle se rappelait à présent, indiquaient bien quelque chose de pareil, comme si John lui-même avait donné à entendre qu'il ne faisait pas son offre par amour. Que portait donc l'amour? Avait-elle le droit d'être si exigeante et de la part d'un homme qu'elle-même ne sentait tant de peine à aimer? Car elle le comprenait trop bien qu'elle ne l'aimait pas. Ne pouvait pas l'aimer. Elle avait un sentiment naturel de sa beauté. Trop longtemps, en pension, elle s'était complue à imaginer son futur mari, pour jamais se résigner à aimer un homme si différent de son idéal. Il lui paraissait que de songer à cet amour, ce serait s'humilier, consentir à l'aveu de son infériorité, qu'elle avait toujours su obstinément cacher. Le médecin de Badenweiler, du moins, était grand et fort, et puis il savait parler des choses qui l'intéressaient. Elle eut un chagrin plus violent que jamais de n'avoir pas entièrement possédé. Et en même temps, elle s'affirmait, toute joyeuse, que sa vie avec John serait d'autant plus agréable qu'il aurait des deux côtés une plus tranquille amitié. De quoi se parlerait-il seulement pendant toute leur vie? Et aurait-elle la force de changer de curiosité, de prendre plaisir à ces affaires de chicane dont il lui faudrait désormais et dorénavant s'occuper? Elle se laissait aller à ses idées immobiles dans son lit, la tête tournée vers le mur du fond. Elle était gaie et tranquille, avec un sentiment de délivrance qu'elle n'avait jamais éprouvée. Elle voulut dormir. Le lendemain, son parti serait pris, ses derniers regrets envolés, et quelles heures délicieuses elle avait devant elle. Elle pensa aux préparatifs du mariage. Quel dommage que les robes blanches l'aient toujours enlaidie. Elle imagina une coiffure qui ne pouvait manquer cette fois de la rendre charmante. Pourvu que son mari ne vint pas se dégoûter d'elle, elle la trouvait décidément trop peu jolie ce soir-là ou un autre jour plus tard dans la vie. Décidément, elle avait encore la fièvre. Elle ne pouvait penser à rien sans aboutir à des images lugubres. Elle s'ingénia à retrouver avec précision ces paroles que lui avait dites sa mère. De nouveau, elle les avait toutes oubliées, sauf les premières, l'annonce qui l'avait fait trembler d'une joie épouvantée. Et pourtant, elle savait que sa mère lui avait parlé de sa sœur aînée, et en somme, n'avait point paru très heureuse. Bof, sa sœur lui pardonnerait. Pas tout de suite, peut-être, mais un jour, bientôt, quand elle la sentirait si heureuse. Elle fut inquiète de savoir de qui le regard de Nelly la verrait le lendemain. Cette pauvre Nelly souffrirait encore bien plus qu'elle n'aurait souffert elle-même à tout le rester fille. Elle était si certaine de se marier, si assurée d'inspirer de l'amour. Il fallait donc toujours souffrir ou faire souffrir dans la vie. Elle imagina des caresses et de tendres paroles qui ne pouvaient manquer de consoler tout le monde. Ce qui la chagrinait le plus, et comme elle se le reprochait, c'était de renoncer à ces projets de vie qu'elle s'était faits avant ce soir-là, projets qui toujours l'avaient attristée, misérables pis-aller consentis à regret, mais où tout de même sa pensée avait disposé une foule d'agréables détails. Mariée, elle ne devait plus songer à aller tous les ans en Italie, à demeurer seule dans un petit cottage des environs de Londres, avec son amie Jane Barkhead. Tout cela, qui lui avait autrefois paru mesquin, maintenant elle y voyait les sources de plaisir que la ville obligeait à laisser hors de sa route pour aller devant elle, elle ne savait trop où. Par quel hasard se souvint-elle d'un bal de l'université l'hiver précédent et de l'ennui qu'il y avait eu, pas un des jeunes gens ne l'ayant invité à danser? Désormais, elle n'irait plus au bal, ou bien elle aurait pour la faire danser son mari qui l'aimait. Mais s'il l'aimait dans ce moment, peut-être finirait-il par se dégoûter d'elle, à entendre dire qu'elle était laide à la voir auprès d'autres femmes. On lui avait souvent affirmé que l'amour naissait de l'habitude. Elle s'habituerait donc à aimer d'amour ce pauvre John Morris. Et ils pourraient vivre ensemble, heureux, heureux, infiniment heureux. Tout d'un coup, elle se redressa sur son lit terrifiée. Elle venait de découvrir que l'idée de son mariage ne lui apportait aucune joie. De nouveau, elle se raisonna, se contraignit à imaginer des motifs de plaisir. Est-ce que son âme était désormais close au bonheur? Et il lui apparut au contraire que le bonheur s'ouvrait devant elle, un bonheur tranquille et discret, mais sûr et éternel. Elle resterait fille, elle vivrait avec ses parents, elle marierait sa sœur et élèverait les enfants. Oui, elle avait été folle jusque-là de se désespérer, et plus folle encore depuis quelques heures de se réjouir d'une chose impossible. Elle n'était pas née pour le mariage, voilà tout. Mais alors elle resterait laide, et son supplice allait continuer. Laide. Elle sentait bien qu'elle ne l'était plus, et que c'est de là que venait ce large sentiment de délivrance. Comment pouvait-elle être laide maintenant qu'elle avait renoncé aux avantages de la beauté? Et quelle sottise ce serait de se désoler d'un mal désormais imaginaire. Il lui semblait que, par le fait d'avoir été demandée en mariage, elle avait repris son rang parmi les femmes, et qu'elle le reprendrait au-dessus d'elle en ayant le courage de refuser. Comme elle respirait à l'aise, comme elle était fière, calme, parfaitement heureuse. Tous, en la voyant, comprendraient qu'elle n'avait pas besoin d'être belle. Et puis enfin, qu'est-ce qu'elle ne l'était pas? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'elle le fût au moins un peu, pour avoir mérité d'être ainsi choisie? Et voilà, écrivait-elle un soir, un mois après son amie, Jane Parkhead, en lui annonçant le mariage de sa sœur Nelly avec John Morris. Voilà comment il est survenu un miracle dans notre maison. J'ai été guéri de ma laideur.